Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, comme tous les vendredis à 18h, en direct sur micro-rebelle.fr et en différé grâce aux rediffusions de nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France. Je pense en particulier à Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois, rediffusion le vendredi soir à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Ainsi que nos amis de Radio Plus 104.3, radio du bassin minier et de l'Artois, à Douvrin, qui nous rediffuse le mardi à midi, à 12h. Donc aujourd'hui en studio, nous sommes deux. Bonjour Luc.
Salut Lucien.
Mais on n'a pas à se plaindre, hein. Toute la journée ça a pas mal défilé dans les studios, donc nos studios, 13 rue Victor Hugo à Liévin, hein, à 50 mètres de la place Gambetta. Et plusieurs reportages, plusieurs émissions ont été imaginées aujourd'hui. Au programme, l'agenda culturel, social, comme chaque semaine, revue de presse, revue d'actualité, et puis deux reportages. Hein, on va vous proposer notamment un reportage, c'est de saison en quelque sorte, sur les, pas forcément les élections européennes, mais enfin sur l'Europe, dirons-nous, et un autre reportage sur les mobilisations contre le glyphosate. On démarre par l'agenda ?
L'agenda, ça démarre tout de suite. Samedi 18 mai, les objecteurs de Croissance 62 vous invitent à rencontrer Hervé Krief autour de son livre « Internet » ou « Le retour à la bougie ». Internet, c'est formidable, c'est merveilleux. Les smartphones aussi, on ne pourrait plus vivre sans eux. Mais ce bonheur de la connexion permanente est-il vraiment parfait ? Sur quoi repose la société de l'Internet ? À quel renoncement, à quel sacrifice mène la numérisation de nos vies ? Comment faire pour que nos choix et nos engagements augurent un monde libre, fraternel et qui préserve la Terre et les vies sur Terre ? Donc c'est à 10h au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin.
Le même jour, hein, samedi 18 mai, c'est à Lens que ça se passe, la mobilisation des Gilets jaunes, l'acte 27. Hein, vous savez que les Gilets jaunes se mobilisent régulièrement en différents points de la région et de France d'ailleurs. Eh bien ce 18 mai, c'est à Lens que ça se passera. Donc on y attend des Gilets jaunes de Lille, on y attend des Gilets jaunes bon, du bassin minier bien sûr. Il paraît même qu'il y aura des Gilets jaunes qui viendront de Belgique. Donc c'est un rendez-vous régional à 13h30. Devant le fast-food du stade Bollaert de Lelys, samedi 18 mai.
Toujours dans les mobilisations, mais cette fois à Lille, c'est contre Monsanto qu'il y aura une manif. Le rendez-vous est donné à 14h30, place de la République.
On passe maintenant au lundi 20 mai, c'est un ciné-débat, ça se passe à Arras. Un ciné-débat animé par notre ami Paul Masson. Le film, c'est « Depuis Mediapart ». Donc je pense qu'on y discutera, suite à ce film, on y discutera de la presse, des fake news, de la relation entre la presse et les mouvements sociaux. C'est donc lundi 20 mai à 20h au Cinémovida à Arras.
Le même jour, un autre ciné-débat, « Fa à Valo, Madagascar 1947 ». Les associations Survinor et les Amis du Monde Diplomatique vous invitent à la projection du documentaire « Fa à Valo, Madagascar 1947 » de la réalisatrice Marie-Clémence Adriamonta-Paillès. À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés « Fa à Valo », ennemis de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans. Les images d'archives inédites filmées dans les années 40 dialoguent avec les scènes de la vie quotidienne dans les villages aujourd'hui. Les récits des anciens et de la musique hypnotique de Régis Guizaveau nous transporte dans le passé pour découvrir cette histoire refoulée. La projection sera donc suivie d'un échange avec la réalisatrice. C'est au cinéma Le Méliès, lundi 20 mai à 20h, tarif 4 ou 6 euros. Attention, paiement sur place uniquement par carte bancaire, mais vous pouvez également réserver sur le site du Méliès, www.lemeliès.fr.
Agenda jeudi 23 mai, c'est un agenda culturel, La migration des canards. C'est une pièce de théâtre réservée, entre guillemets, aux ados, mais aussi aux adultes. Hein. Il faut avoir plus de 12 ans. Et ça se passe pas très loin de chez nous, ça se passe au Centre Arc-en-Ciel, place Gambetta à Liévin. C'est à 19h, donc c'est l'histoire singulière d'une famille issue de l'immigration à travers la voix d'une enfant de 10 ans, seule en scène, dans un espace de jeu habité par des images vidéo et un balai de chaises vides. Seule en scène donc, dans un espace de jeu habité par des images vidéo, la comédienne Violette Bernard raconte l'histoire singulière d'une famille issue de l'immigration à travers la voix d'une enfant de 10 ans. Sous l'emprise d'une éducation stricte et violente, la jeune fille n'aspire pourtant qu'à être comme les autres, à s'amuser, rêver, partir en vacances. « Moi, je regardais les autres et je savais que j'étais différente », nous dit-elle. La migration des canards aborde ici la transmission des traditions familiales en questionnant notre sentiment d'appartenance et cette injonction d'exemplarité qui pèse sur les populations issues de l'immigration. Comme si, pour justifier leur présence, elles devaient toujours faire mieux. C'est donc jeudi 23 mai à 19h, donc du théâtre La Migration des Canards, au Centre Arc-en-Ciel, place Gambetta, donc à Liévin. Le prix des places 10 euros, tarif réduit 5 euros, et même un tarif solidaire à 3 euros.
Également le jeudi 23 mai, de 19h à 20h30, il y aura une réunion mensuelle des objecteurs et objectrices de Croissant 62, c'est au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin.
Le lendemain, vendredi 24 mai, une conférence débat sur la thématique des impôts. Alors à Micro-Rebelle, on a déjà plutôt pas mal abordé cette question, donc notamment au travers de nos reportages avec les Gilets jaunes, bien sûr. Également le 1er mai à Arras, avec un échange avec Alexis Spire hein, autour de son dernier livre, hein, Attachement à l'impôt, résistance à l'État. Interview que vous pourrez retrouver sur microrebelle.fr. Et donc ce vendredi 24 mai, c'est une autre conférence débat avec notamment des Gilets jaunes d'Eleu d'Illouette. C'est une initiative de l'Université populaire Sti Guevara et c'est à 18h15, 4 rue du Stade, à la salle du Bon Accueil à Lens. Attention, l'entrée se situe par le hall de l'immeuble à Lens, à gauche, pardon.
Marche pour le climat, samedi 25 mai à 14h30 à Arras. C'est une marche festive au départ de la place de la gare. L'appel des scientifiques se fait de plus en plus pressant. Les conséquences du réchauffement climatique seront de plus en plus graves si les rejets de gaz à effet de serre se poursuivent. Aujourd'hui, ces émissions ne diminuent pas, mais repartent même à la hausse. Pourtant, rien n'est perdu, exigeons des pouvoirs publics qu'ils prennent des mesures de transition nécessaires pour repenser nos modèles énergétiques, urbains, industriels, agricoles, qu'ils mènent des politiques ambitieuses, indispensables pour accompagner un changement sociétal profond dans le respect de toutes et tous. C'est à l'initiative du collectif Arageois pour le climat, collectif qui réunit de nombreux citoyens, des associations, des syndicats et des partis politiques. Donc samedi 25 mai, 14h30, à Arras, place de la gare.
Toujours le week-end prochain, samedi 25 mai et également samedi 26 mai, ça se passe au Louvre-Lens. Et ce sont nos amis militantes et militants d'Amnesty International qui nous proposent de les retrouver dans le hall du musée pour échanger avec nous, avec les visiteurs et visiteuses, présenter leurs actions et animer avec des médiateurs et médiatrices du musée de brèves conférences pour des impromptus à deux voix dans l'exposition Homère. Donc, chaque jour, hein, samedi 25 et dimanche 26, c'est de 14h30 à 17h, hein, mais ça ne dure pas 2h30, hein, c'est en continu. Un atelier en continu, co-animé par ses médiatrices et médiateurs du musée et des militants d'Amnesty International, qui invite petits et grands à s'initier à la pratique artistique, au travers du dessin, de la gravure, sur le thème de la cartographie et du voyage d'Ulysse, en référence aux migrations actuelles. C'est gratuit et c'est à partir de 2 ans.
C'est terminé pour l'agenda du week-end et de la semaine prochaine.
Voilà, donc on enchaîne sans plus tarder sur l'actualité sociale, politique, au travers de la revue de presse. Alors l'actualité dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est les salariés d'Ascoval. Hein, on a découvert que le repreneur d'Ascoval, British Steel, qui doit reprendre la scierie du Nord, serait proche de la liquidation judiciaire. Alors on souhaiterait rappeler, hein, ici, dans ce micro-rebelle hebdo, rappeler brièvement, au travers de cet exemple, comment fonctionne le capitalisme. British Steel, c'est une société anglaise, mais qui est détenue par un fonds financier, lui-même détenu par 2 Français. British Steel emploie 5000 salariés. En avril, British Steel a obtenu 115 millions d'euros du gouvernement britannique et lui en demande maintenant 86 millions pour éviter le dépôt de bilan. De son côté, le gouvernement français s'apprête à verser à British Steel 47 millions d'euros. C'est une des phases du capitalisme, empocher de l'argent public pour au final s'enrichir et servir des intérêts privés au détriment de 5000 salariés. Dans l'actualité et dans la presse locale maintenant, un article dans Liberté Hebdo qui concerne la grande surface Auchan. On en a déjà parlé hein, dans nos éditions de Micro Rebelle. Donc je vous lis cet article. Auchan, les syndicats réclament l'accès aux comptes. Et Liberté Hebdo poursuit. La famille Mullier ne fait pas d'affaires pour le plaisir, ni par humanisme. Il faut que les magasins rapportent ou qu'ils ferment. Le 30 avril, le groupe Nordiste avait annoncé leur projet de mettre en vente 21 magasins jugés moins rentables. Plus de 700 salariés sont concernés par cette mesure. Chose inédite à Auchan, le comité central d'entreprise a voté le 15 mai à l'unanimité pour une procédure de droit d'alerte économique et demandé une expertise. La veille, le groupe a annoncé son retrait des marchés italiens et vietnamiens. Les syndicats FO, CFDT, CGT et CFDT espèrent obtenir plus d'informations que dans le cadre du futur plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi notamment sur les comptes, les grandes orientations stratégiques, la situation du groupe au niveau international. C'est ce qu'a confié à l'AFP le délégué syndical central de la CFDT, Guy Laplatine. La CFDT demande que le PSE et les reclassements soient organisés au niveau du groupe Mullier, Kiabi, Saint-Maclou, Top Office, Pickwick, Noroto, Fildar, Flunch, Boulanger, Leroy Merlin, Pimki, entre autres, font partie de l'immense galaxie d'enseignes détenues par les membres de la famille Mullier. FO rappelle qu'entre 2013 et 2018, le groupe Auchan a réalisé un cumul de 2 706 millions d'euros de bénéfices nets, auxquels s'ajouterait ainsi aussi un cumul de 522 millions d'euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE. Auchan Holding avait pris les devants en mars en annonçant des pertes estimées à 1145 milliards d'euros, à 1,145 milliards d'euros en 2018, avec des revenus en baisse en France de 1,3%. Dans la région Hauts-de-France sont concernés les supermarchés de Marquette-les-Lilles, Arras et Albert dans la Somme. Le personnel se prépare maintenant à de longues semaines d'incertitude. Voilà, donc ça c'était l'analyse de Liberté Hebdo. Alors parallèlement à Auchan, on peut rappeler que Carrefour prévoit la destruction de 3000 emplois dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, alors que Carrefour engage des profits gigantesques et reçoit de belles aides de l'État. Tout ça au bénéfice de Bernard Arnault. Alors on va terminer cette revue de presse, ce tour de l'actualité par un article, par un extrait, enfin un article vu dans La Voix du Nord. Hein, cette semaine, c'est il y a 2 jours, un article. On n'a pas souvent l'occasion de parler de ce type d'article, donc aujourd'hui on va faire une petite exception. Cet article s'intitule « Le bien commun, le nouvel Eldorado des entreprises à mission ». Donc on va parler en quelque sorte de statut d'entreprise et de perspectives pour les entreprises. Alors, extrait de l'article. Le Parlement travaille sur un nouveau statut de société à objet social étendu pour que des entreprises à mission puissent inscrire leur raison d'être dans leur statut. À quoi sert l'entreprise? Quelle est son utilité, par exemple sociale? Voilà, fin de citation. Alors, de quoi s'agit-il? Le journal interroge Sylvain Brezard, président de Norcis, une société qui fait des services informatiques à Ennevelin, 550 salariés, 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, extrait de la réponse de Sylvain Brezard. Les entreprises classiques, en SARL ou SA, ne se convertiront pas en entreprises sociales et solidaires qui inscrivent l'utilité sociétale dans leur statut. L'entreprise à mission est donc une opportunité pour celles qui le souhaitent de se démarquer, de réfléchir à leur utilité et se demander non comment mais pourquoi on fait telle ou telle chose. L'entreprise à mission est proche de la SA en termes capitalistiques, mais elle ne déstructure pas l'actionnariat, mais elle ajoute une dimension sociétale. Voilà, fin de citation de ce qu'expose Sylvain Brezard, président de Norcis. Voilà, donc peut-être une opinion sur cet article de La Voix du Nord et ce statut de société à objet social étendu, ce statut d'entreprise à mission. On n'a pas beaucoup l'occasion d'aborder ce type d'analyse à micro-rebelle, donc on va tous faire un petit effort pour essayer de comprendre ce dont il s'agit. Alors avec ce nouveau statut, on peut estimer que l'objectif du gouvernement est double. Premièrement, donner la possibilité à des entreprises parfaitement capitalistes, comme semble l'être Norcis, de se donner une image sociétale, environnementale, bref, une image d'entreprise propre sur soi. C'est un phénomène qu'on connaît bien et qui porte également les noms de greenwashing et ou de social washing. Plusieurs entreprises du CAC 40, pas spécialement connues pour leur générosité sociale et environnementale, s'inscrivent avec plus ou moins de bonheur dans cette perspective. Pour de telles entreprises, se draper dans une image positive est important pour leurs partenaires, leurs actionnaires ou leurs clients. Cette proposition de statut d'entreprise à mission est donc une belle opportunité. En gros, à peu de frais, au travers de quelques mesures symboliques, on se refait une virginité toute neuve. Le deuxième objectif du gouvernement est sans doute plus pernicieux. Il s'agit ni plus ni moins de désigner ce qui serait la bonne alternative aux entreprises capitalistes peu fréquentables. Aujourd'hui, ça ne fait plus guère de doute. Le capitalisme s'appuie sur des entreprises polluantes, sur des entreprises socialement prédatrices, sur des entreprises pour lesquelles l'éthique est une contrainte. Avec le statut d'entreprise à mission, le gouvernement indique que ces entreprises sont des mauvaises entreprises. Mais qu'il existe de bonnes entreprises, celles qui ont ce fameux nouveau statut. Ainsi, au final, sans rien changer, le capitalisme s'adapte et en quelque sorte met désormais sur un piédestal ces éléments présentables. Sans rien changer, oui, parce que au sein de ces entreprises, les inégalités perdurent, les outils de production sont toujours aux mains des propriétaires privés et au final, ce sont toujours les actionnaires qui décident. C'est dans ce contexte, par exemple, qu'est apparue une belle tartufferie, le capitalisme vert. Bref, ne soyons pas dupes, l'entreprise à mission est un nouveau tour de passe-passe qui vise à prolonger les ravages d'un système économique à bout de souffle et en pleine déliquescence. Il nous semble plus prometteur de regarder du côté de ces entreprises coopératives, associations, organisations, qui s'efforcent, souvent avec difficulté, de proposer d'autres manières de développer leur activité dans le cadre d'une économie sociale et solidaire de transformation sociale. Et puis, il nous semble évidemment important de soutenir les travailleuses et travailleurs de toutes entreprises qui luttent pour changer ce monde de l'entreprise et son système économique.
Pour la musique, on va maintenant explorer des contrées qu'on n'a pas trop l'habitude d'explorer à micro-rebelle. Quelque chose un peu hard rock, même si les étiquettes, c'est pas toujours valable et que par méconnaissance des sous-genres du rock ou du métal. On va ici un peu classifier la chose facilement. Néanmoins, Bring Me the Light par The Riders. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales et aussi des alternatives politiques et économiques. Juste derrière nous, c'était The Riders, Bring Me the Light.
Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, hein, Luc et moi, on est tout seuls dans ce studio pour ce Micro Rebelle Hebdo, mais dans la journée, on a eu pas mal de passages et notamment notre ami Aurélie a mené une rencontre avec Daniel Ludwikowski concernant une lutte qui se développe actuellement en France avec pas mal de participantes et participants, une lutte concernant le glyphosate. On va tout de suite écouter Daniel Ludwikowski avec Aurélie.
Oui, bonjour, je suis Daniel Ludwikowski et c'est pour parler du glyphosate que vous m'avez invité aujourd'hui. Voilà. Sinon, qui suis-je ? Je suis un habitant de Liévin, liévinois. Je suis élu municipal et je suis surtout engagé dans l'écologie depuis déjà de nombreuses années. Voilà un peu mon profil.
D'accord, merci. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le glyphosate pour ceux qui l'ignorent ?
Alors, le glyphosate est la partie la plus, la plus active d'un tas de produits, dont le fameux Roundup, dont on peut considérer qu'à 40%, il est composé de glyphosate. C'est en fait une partie active qui empêche les enzymes de certaines plantes de fonctionner et qui donc brûle notamment ce qu'on peut appeler l'herbe et qui a été utilisé de façon massive et très courante jusqu'à ces dernières années et qui est, hélas, encore utilisé car l'Europe ne veut pas interdire tout de suite son utilisation, sachant qu'il a quand même quelques répercussions sur l'environnement, bien sûr, mais aussi sur la santé.
Vous avez participé à cette campagne de test d'urine notamment, ce qui est un peu d'actualité, pour dépister justement le taux de glyphosate dans l'organisme humain. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire ce test ?
Alors, c'est parti du département de l'Ariège, d'agriculteurs de l'Ariège qui faisaient de l'agriculture biologique et qui se demandaient, devant l'inaction, on va le dire comme ça, des pouvoirs publics et notamment de la Commission européenne, qu'est-ce que des citoyens et notamment des agriculteurs, qui sont les premiers exposés à ces produits, pouvaient bien faire pour démontrer que le glyphosate n'était pas innocent. Et ils ont donc décidé d'entamer le dosage dans leurs urines du glyphosate avec comme objectif de déposer plainte et surtout de le faire savoir aux sphères médiatiques et à la sphère publique. Et donc il y a eu une procédure de montée, un cabinet d'avocats de contacter pour d'abord doser chez ces agriculteurs de l'Ariège leurs urines. Et ensuite, il y a eu des comités locaux qui ont été montés dans toute la France pour proposer à tout citoyen qui le veut de pouvoir savoir s'il a dans les urines du glyphosate. Et donc, il y a quelques centaines de comités locaux maintenant sur tout le territoire français. Et on en est à plus de 3000 prélèvements qui ont été faits. Et la finalité, au-delà du prélèvement et de savoir qu'on a du glyphosate dans les urines ou qu'on n'en a pas, mais je dois vous dire que quasiment tous les échantillons présentent du glyphosate. Au-delà de ça, c'est de pouvoir déposer plainte auprès d'un seul tribunal de grande instance. C'est le pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris, où toutes les plaintes arrivent. Elles sont individuelles, mais elles sont toutes formulées de la même façon, car c'est un seul cabinet d'avocats qui les traite. Alors pourquoi elles sont individuelles ? C'est que pour que le pôle santé publique ne puisse pas refuser la plainte, bien sûr, en disant qu'il n'y a pas matière à plainte. Donc les plaintes sont en cours. Par exemple, moi, après avoir dosé mon glyphosate dans mes urines, je dois aller, là en juin, avec les autres collègues qui, à Arras, ont également du glyphosate dans les urines, déposer plainte, pareil, auprès du tribunal de grande instance de Paris. Voilà la manière dont ça s'est constitué. C'est donc maintenant une action qui vient d'Ariège, mais qui s'est, étendue à l'ensemble du territoire français. Il y a un site internet qui s'appelle Campagne Glyphosate, où on vous explique l'objectif, comment on peut demander à doser le glyphosate dans ses urines, vers quoi ça peut tendre, voilà.
Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que dans la plupart des articles, on évoque le fait que les résultats sont majoritairement positifs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de cas négatifs au glyphosate. Dans ce cas-là, concrètement, est-ce que cela veut dire que nous sommes tous potentiellement malades ?
Alors, malade, je ne sais pas, mais exposé, c'est sûr. Puisque même ceux qui habitent en milieu urbain, qui ont toujours vécu en milieu urbain, ce qui est mon cas, en ont dans leurs urines. Donc exposé, c'est sûr. Malade, il faudrait une enquête épidémiologique qui puisse déterminer la liaison, la cohérence qu'il y a entre du glyphosate, notamment dans ses urines, et l'apparition de certains symptômes ou certaines maladies. Donc j'irai pas jusque-là, mais le seul fait d'être déjà exposé au glyphosate et d'en avoir dans son corps est, à mon avis, déjà suffisamment inquiétant pour que l'ensemble des personnes chargées de la santé publique puissent s'en inquiéter. À ce titre, peut-être y aura-t-il une étude demandée par je ne sais quelle autorité, le ministère de la Santé ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sur cette affaire.
Et on remarque aussi que malgré ces résultats, les responsables de l'autorité européenne de sécurité nient toutefois le caractère cancérigène du glyphosate, qui a été démontré quelques années plus tôt. Et en 2016, on remarque que en fait, ils ont retiré les produits du marché contenant une grande part de glyphosate. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, on est devant un gros problème qui est que devant les commissions européennes, ce sont les firmes qui fabriquent les produits qui viennent déposer des résultats démontrant qu'il n'y a pas de, par exemple, de problème pour la santé publique. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une expertise extérieure qui regarde le produit et qui dit oui, c'est bon, c'est pas bon. C'est la firme elle-même, qui vient démontrer avec ses études que ceci est sans problème pour la santé publique. À un tel point que l'agence américaine de, je sais plus comment elle s'appelle, de la santé, il y a quelques semaines, quelques mois, vient de réaffirmer que le glyphosate était sans problème pour la santé publique, parce que bien sûr, du glyphosate, il n'y en a pas qu'en France et en Europe, d'autres pays en utilisent. Donc ça, c'est un gros problème, c'est une expertise indépendante pour les produits. Alors, il n'y a pas que le glyphosate, hein, il y a un tas d'autres produits. Pourquoi ça me paraît inquiétant? Parce que je fais le parallèle avec le problème de l'amiante en France. La France est le dernier pays qui a autorisé la mise en place de l'utilisation de l'amiante, après bien d'autres pays qui l'avaient interdit depuis déjà des années. Pourquoi? Parce qu'en France, il existait ce qu'on appelait un comité permanent amiante, qui était animé et financé par les industriels de l'amiante. Et dans ce comité permanent amiante, on retrouvait toute la puissance publique, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Environnement, qui se rendait à ce comité permanent amiante, qui était tout sauf un centre d'experts indépendants. Ça a amené le scandale qu'on a su, et je pense que dans le glyphosate, on est dans le même problème. Ce qui est d'autant plus inquiétant que quand même la puissance publique des fois se réveille, qu'un ministre, et pas n'importe lequel, Nicolas Hulot, qui est parti de façon assez abrupte du gouvernement, notamment à cause du problème du glyphosate, c'est assez inquiétant. Ce sont des signes qui font que... on espère qu'un jour, la puissance européenne, parce que là, c'est elle qui détient la règle et le bâton, va un jour dire, bon, ben voilà, il faut qu'on tranche sur cette affaire. Mais il faut savoir que derrière, mais ça, je suppose que beaucoup de vos auditeurs le savent, il y a l'ensemble des lobbies qui font du lobbying à Bruxelles pour justement écouler des produits dont la masse financière qu'il y a derrière est assez conséquente. Il faut savoir que ces firmes qui fabriquent ces produits agrochimiques sont quand même issus des vendeurs de après la guerre 45, de ceux qui fabriquaient les bombes chimiques. Tout ça est le même monde, c'est les mêmes sociétés, et sont issus aussi des grands groupes pharmaceutiques. Tout ça est lié, et donc tout ça représente un lobby financier considérable qui est très, très fortement armé. J'en veux pour exemple le fichage de journalistes, de scientifiques effectué par Monsanto, qui a été dénoncé il y a 15 jours, je crois. C'est-à-dire que Monsanto a une liste de politiques français, de journalistes, de chercheurs, où on dit à surveiller, à entreprendre. Tout ça est très organisé. Et c'est bien pour ça que le mouvement citoyen que se veut cette campagne glyphosate qui s'adresse à n'importe quel citoyen, le mouvement citoyen doit réagir pour dénoncer ça et faire un contre-pouvoir, à mon avis.
Aujourd'hui en France, quelques chercheurs et quelques docteurs, justement, se sont questionnés justement sur le lien de cause à effet entre le glyphosate et les maladies qu'on a aujourd'hui, notamment le cancer qui peut être des poumons, du foie. Et on parle donc en fait, à propos de cette affaire du glyphosate, d'une collusion entre les grandes firmes pharmaceutiques justement et celles qui produisent les pesticides. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie concrètement ?
Ah ben, je pense qu'elle est tout à fait, elle est tout à fait réelle. Je viens de le dire d'ailleurs à votre micro, grandes firmes pharmaceutiques et fabricants de pesticides, c'est le même combat, voire les mêmes têtes dans les mêmes conseils d'administration de ces sociétés. C'est pour ça que les 3000 personnes qui viennent de se faire doser le glyphosate dans les urines portent plainte, et dans le dépôt de plainte, les personnes qui sont pressenties, c'est les présidents et les membres de la Commission européenne, les présidents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les présidents de l'Institut fédéral allemand, et il y a aussi tous les présidents de ces sociétés de fabrication. C'est vraiment ce public qui est visé, parce qu'il est mis en responsabilité actuellement, et c'est tous ces membres qui siègent dans les conseils d'administration qui sont visés par cette plainte, on va le dire comme ça.
J'ai fini de poser mes questions.
Est-ce que je peux rajouter quelque
chose ?
Oui,
il n'y a pas de souci.
Parce qu'en fait, tout cela n'est pas fini. Il y a eu des recherches de glyphosate sur Lille, sur Arras, il y en a eu sur Roubaix, et il va bientôt en avoir sur Maubeuge le 22 juin. Donc il y a de plus en plus de citoyens qui se mobilisent. Et je voulais conseiller à tous ceux qui seraient intéressés par ce dosage de glyphosate et par cette action quand même, cette action militante, et politique, on va le dire comme ça, d'aller sur le site campagneglyphosate.com, où là, ils auront tous les détails des objectifs, de la plainte qui peut être déposée et de ce qu'ils peuvent attendre une fois qu'ils auront leurs résultats de glyphosate dans les urines, avec un seul détail quand même qui a son importance. Tout cela n'est pas gratuit, ça coûte 150 euros. Ce qui n'est donc pas possible pour tout le monde. Pourquoi ce n'est pas gratuit ? Parce qu'il y a derrière les frais du cabinet d'avocats parisien, qui bien sûr va aller auprès du pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris faire évoluer la plainte, qu'elle soit prise en compte. Et il y a aussi les frais de laboratoire. Parce qu'il faut vous dire qu'en France, il y a pas le laboratoire qui dose le glyphosate dans nos urines est un laboratoire allemand. Il n'y a pas de laboratoire qui peuvent aller jusqu'à un seuil de détection qui va jusqu'au nanogramme. Ils vont jusqu'au microgramme, les laboratoires français. Et il y a justement une université française qui nous a contactés pour savoir comment elle pourrait aussi avoir un processus. Quant à la démonstration que la présence de glyphosate dans le corps d'un humain et l'apparition de maladies, ça doit faire l'objet d'une enquête épidémiologique, d'une étude épidémiologique. Et ça, on espère bien qu'un jour, la puissance publique va la mettre en œuvre. Parce qu'une étude épidémiologique, il faut des cas témoins, des cas notes, ça demande des échantillons avec beaucoup de personnes. Et ça coûte bien sûr un peu d'argent, mais à mon avis, c'est très utile. J'avais une autre information, si vous le permettez. C'est sur la firme Monsanto, pour vous dire que ce samedi 18 mai, dans une cinquantaine de villes en France, dont Lille, il y a des manifestations contre la firme Monsanto qui sont organisées. Alors à Lille, je ne sais plus très bien l'heure, c'est, je crois, je l'ai devant les yeux, 14h30, place de la République, pour dire, voilà, cette firme qui a déjà été condamnée hein, par des Américains, notamment, qui ont porté plainte pour des cancers, un Français aussi, qui a eu gain de cause en première instance, pour dire à cette firme que décidément, les femmes et les hommes de pas que de ce pays, mais de la planète, voudraient que Monsanto arrête un peu de diffuser des produits qui, à l'évidence, sont nocifs pour l'ensemble de la population. Et je voudrais quand même le rajouter. Je voudrais quand même le rajouter parce que quelquefois, le message parle mal. Les premières victimes de ce genre de produits sont quand même les agriculteurs et les agricultrices. Et ça, il faut qu'ils le sachent, parce que quelquefois, lorsqu'on parle du glyphosate et qu'on tombe quelquefois à bras raccourcis sur le glyphosate, ils se sont un peu mis en cause. C'est pas eux qui sont en cause, c'est pas eux qui les utilisent, c'est ceux qui vendent ces produits et qui disent c'est nocif, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème pour personne. Voilà ce que j'avais à dire pour vous faire un peu de pub pour cette campagne glyphosate.
D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt.
Merci bien, bonne journée.
C'était Daniel Ludwikowski, au commun peine à se faire entendre. ATTAC et la Fondation NIC souhaitent à la fois une rupture avec l'Europe des traités et l'avènement d'une Europe sociale dont certains disent pourtant qu'elle n'aura jamais lieu. Ces deux organisations ont publié « Cette Europe malade du libéralisme, l'urgence de désobéir » en 2019 aux éditions des Liens qui libèrent. On propose donc un entretien téléphonique avec Pierre Calfa, co-auteur et coordinateur du livre. Il est aussi économiste, co-président de la Fondation Copernic et membre du conseil scientifique d'ATTAC.
L'Union européenne est un ordre juridique tout à fait particulier, dans lequel le droit de la concurrence est un droit de nature quasi-constitutionnelle, dans lequel les normes économiques et financières sont des normes qui ne sont pas discutées politiquement ni démocratiquement. Je vais vous donner un exemple en comparant par exemple avec l'ordre juridique en France. En France, vous avez le droit de la concurrence d'un côté, la liberté d'entreprendre, et puis de l'autre, vous avez le droit de grève. Bon. Ces deux droits sont sur le même statut dans la hiérarchie juridique des normes. Et il peut avoir, et il y a d'ailleurs souvent des conflits entre ces deux droits. Quand il y a conflit entre ces deux droits, il y a une cour de justice, qui est la cour de cassation, qui tranche. Elle tranche certes en fonction de l'état d'opinion, des rapports de force, mais aussi du fait que ces deux droits ont la même valeur juridique dans la hiérarchie des normes. C'est pas du tout le cas en Europe, dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, c'est le droit de la concurrence, la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre qui prime sur tous les autres droits, et sur tous les droits sociaux en général, qui relèvent d'ailleurs du domaine national et pas du domaine européen. Et donc, comme le droit européen prime sur le droit national, c'est le droit de la concurrence, la liberté du commerce qui l'emporte sur tout le reste. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le traité de Maastricht et les traités suivants, notamment le traité d'Amsterdam, impose des normes financières, budgétaires, ce qu'on appelle les critères de Maastricht ou les critères du pacte de stabilité. 3% maximum du PIB de déficit budgétaire, 60% du PIB en matière de dette publique, par exemple. Bon. Ces normes n'ont aucune valeur économique. Pourquoi 3 et pas 2,5 ou 3 et pas 3,5 bon. C'est-à-dire, c'est des normes arbitraires. Or, l'application de ces normes et ces normes elles-mêmes ne sont jamais décidées, ne sont jamais discutées démocratiquement. Donc les politiques économiques et sociales qui sont menées au nom de ces normes-là échappent à tout débat démocratique, à toute décision citoyenne. Qui plus est, après la crise de 2008 et de 2009, toute une série de directives et de règlements, ce qu'on appelle dans le jargon européen les CIPAC et les TUPAC, qui sont des directives et des règlements adoptés avec l'accord des États. Aucune directive européenne ne peut être adoptée si les États ne sont pas d'accord. Donc ces directives plus un nouveau traité qu'on appelle le pacte budgétaire, bon, et un traité c'est quelque chose qui est rédigé par les gouvernements, qui est ratifié par les États, donc les gouvernements nationaux en sont les principaux responsables, ont encore verrouillé la situation par toute une série de mesures institutionnelles qui font qu'aujourd'hui, on est en fait dans une structure globale qui est totalement antidémocratique et qu'on peut appeler un fédéralisme autoritaire. C'est-à-dire qu'on a des mesures prises au niveau européen qui ne sont jamais débattues politiquement, décidées démocratiquement et qui sont imposées.
Dire que l'Europe est malade, ça voudrait dire qu'elle a été atteinte tardivement par le mal libéral, qu'elle n'a pas toujours été libérale ?
L'Europe, depuis le départ, est une Europe capitaliste, ça c'est clair. Mais entre le capitalisme néolibéral que nous connaissons aujourd'hui et le capitalisme qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, ce que les économistes appellent le capitalisme fordiste, il y a des différences fondamentales. Le capitalisme fordiste était basé sur un compromis social qui aboutissait à un partage des gains de productivité entre les salariés d'un côté et les directions d'entreprise de l'autre. Et les perdants de ce compromis social étaient les rentiers, les actionnaires. À partir du milieu des années 80, vous avez un changement radical de situation sur la base de défaites ouvrières considérables dans tous les pays européens, bon, et qui aboutit à un nouveau mode de gestion des entreprises dans lequel la création de valeur pour l'actionnaire devient la priorité unique, bon, du fonctionnement des entreprises. Et l'emploi, les salaires deviennent simplement des valeurs d'ajustement de cet objectif-là. La construction européenne s'adapte à cet objectif-là, à partir d'un traité, hein, c'est le grand tournant de la construction européenne, c'est 1986, hein, c'est l'acte unique qui crée un marché unifié des capitaux, des marchandises et des services à l'échelle européenne. Et c'est à partir de ce moment-là que le droit de la concurrence devient un véritable droit de nature constitutionnelle qui surdétermine en fait le fonctionnement de l'ensemble de la construction européenne. Ce tournant, hein, il faut le signaler, avait été précédé par une vague néolibérale dans la plupart des pays européens. Hein, c'est l'élection de Thatcher en 79 en Grande-Bretagne, mais c'est en France aussi ce qu'on a appelé en 83 le tournant de la rigueur avec la déréglementation financière menée par Bérégovoy et Fabius, hein, à l'époque. Bon. Dans la foulée, vous avez ce qu'on a appelé la mondialisation néolibérale, la globalisation du capital. Et on passe d'un capitalisme qui était auparavant très peu internationalisé, à tel point que dans les années 60, hein, le volume du commerce mondial est équivalent à ce qu'il était en 1913, alors que la richesse produite à l'échelle internationale avait été incroyablement plus importante. Hein. Donc ça montre qu'on avait à l'époque, dans les années 60, un capitalisme qui était encore faiblement internationalisé, qui était centré sur le territoire national. Tout change en fait dans les années 70-80, et c'est ce changement qui est enregistré à l'échelle européenne avec un véritable tournant, le tournant de l'acte unique de 1986.
Alors dans ce contexte, est-ce que l'alternative d'une Europe sociale est encore possible? Est-ce qu'on peut envisager de voir apparaître un autre modèle, de reconstruire l'Europe sur des bases plus saines en vue de politiques qui seraient davantage progressistes?
Il faut de toute façon une rupture avec l'Europe telle qu'elle se construit actuellement. Le problème, c'est comment cette rupture peut advenir. C'est ça la question stratégique, je dirais. Bon. Il y a aujourd'hui trois leviers possibles. Le premier levier, c'est le Parlement européen. Il va y avoir des élections au Parlement européen. Bon, le Parlement européen n'est pas un Parlement croupion, hein, contrairement à ce que souvent on entend dire, c'est totalement faux. Quand on regarde les pouvoirs du Parlement européen et les pouvoirs réels du Parlement français, le plus croupion n'est peut-être pas celui qu'on croit. Hein. Le Parlement européen a des pouvoirs de blocage, des directives. Aucune directive européenne ne peut être adoptée s'il n'y a pas l'accord du Parlement européen. Il a donc un pouvoir de négociation, un pouvoir de nuisance par rapport à la Commission européenne et par rapport au gouvernement. Mais il n'a pas la possibilité de réorienter en profondeur la construction européenne, tout simplement parce que il n'a pas son mot à dire sur les traités européens qui relèvent exclusivement des gouvernements et des États. Or, c'est ces traités-là qui sont un problème majeur. Bon. Le deuxième levier, c'est le levier des mobilisations sociales et citoyennes européennes. Or, aujourd'hui, elles sont de faible ampleur. Elles existent, elles réussissent à peser quelquefois sur tel ou tel sujet, mais elles n'ont pas encore une puissance suffisante pour permettre de réorienter en profondeur, de reconstruire la construction européenne. Le troisième levier, c'est la rupture au niveau national. C'est-à-dire le fait qu'un gouvernement de gauche, progressiste, voulant rompre avec le néolibéralisme, arrive au pouvoir dans un ou plusieurs pays et essaye de mener une politique progressiste. Bon, il faut d'abord que un tel gouvernement arrive au pouvoir. Mais c'est pas fait, hein. On le voit, on en est encore loin, hein, que ce soit en France ou en Espagne par exemple, ou même en Grande-Bretagne. Hein. Prenons cette hypothèse-là, hein, qu'un gouvernement de gauche progressiste, voulant rompre avec le néolibéralisme, arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Là, il faut tirer les leçons de ce qui arrive en Grèce avec le gouvernement Syriza, qui a été étranglé par l'Union européenne, qui a été étranglé financièrement, hein, par l'Union européenne, et qui a été in fine obligé de capituler. Qu'est-ce que n'a pas fait le gouvernement Syriza? C'est qu'est-ce qu'il a fait plutôt d'abord? C'est qu'il a négocié, il a essayé de négocier à froid avec l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire ce qui regroupe les ministres des Finances de la zone euro, et avec la Banque centrale européenne. Évidemment, dans une négociation à froid sans rapport de force, Bon, la Grèce s'est retrouvée toute seule et s'est retrouvée étranglée financièrement. Il faut tirer les leçons de cette affaire-là. Et tirer les leçons de cette affaire, ça veut dire qu'il faudra qu'un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir prenne des mesures unilatérales, qui sont des mesures unilatérales qui permettent de se protéger par rapport à l'étranglement financier qui risque fortement d'arriver. Parce que les classes dirigeantes européennes ne laisseront pas faire, notamment dans un pays important de l'Union européenne, ou même dans un autre, ne laisseront pas faire une rupture tranquille avec le néolibéralisme. Donc il faudra prendre des mesures unilatérales, par exemple un contrôle des capitaux, pour empêcher une fuite des capitaux. Par exemple, une réforme fiscale majeure, de redonner des marges de manœuvre à la puissance publique et rétablir une équité fiscale. Par exemple, reprendre contrôle de la finance, avoir un contrôle public et social des banques. Bon, toute une série de mesures de ce type-là, qui sont à la fois des mesures de rupture avec le néolibéralisme et qui permettent de nous protéger par rapport à l'étranglement financier.
L'urgence de désobéir, c'est le sous-titre du livre. D'après vous, c'est plus judicieux de préférer la désobéissance plutôt qu'une sortie de l'euro ? De l'euro ou de l'Union européenne ?
Oui, mais sortir de l'euro, de fait, signifie sortir de l'Union européenne. Hein. Ça revient au même. Puisque le noyau dur de l'Union européenne, c'est la zone euro. Et en théorie, tous les pays qui sont dans l'Union européenne sont susceptibles un jour de rentrer dans la zone euro. La sortie de la zone euro présente des inconvénients. D'abord, ses bénéfices sont très aléatoires. Elle a des inconvénients économiques très importants. Je vous en cite un, par exemple, qui est le fait qu'il y aurait effectivement, probablement, une spéculation sur la nouvelle monnaie. Comme l'euro s'appuie, s'adosse à une zone économique très importante, et que c'est maintenant une monnaie importante à l'échelle internationale, il n'y a pas eu de spéculation financière sur l'euro. Alors qu'avant la création de l'euro, il y a eu des spéculations financières sur le franc, sur la livre, sur la lire, etc. La création de l'euro a empêché les spéculations financières sur la monnaie. Donc sortir de l'euro nous mettrait dans cette position-là, dans la position d'être soumis à des spéculations financières sur la nouvelle monnaie, ce d'autant plus dans le cas de la France, que la France est en déficit commercial. Elle est très sensible à la spéculation financière sur sa monnaie. Le second problème, c'est le fait que la dévaluation, parce qu'il y aurait une dévaluation si la France sort de l'euro, la dévaluation aurait des conséquences en matière d'augmentation des prix de nos importations, notamment des prix de l'énergie, ce qui signifierait un surcroît d'inflation. De ce point de vue-là, un appauvrissement global de la population. Quand il y a inflation, vous avez un appauvrissement global de la population. Il y aurait des bénéfices économiques qui seraient des bénéfices aléatoires pour des inconvénients économiques importants. Bon. Mais le fond de l'affaire sur la sortie de l'euro, c'est le signe politique que nous donnons. La question est de savoir si nous voulons ou pas construire un destin commun de tous les peuples d'Europe, ou si nous pensons que nous allons nous en sortir tout seuls contre les autres. Or, en sortant de l'euro et en menant une politique de dévaluation compétitive les autres pays européens, ce que nous mettons en scène, c'est qu'en fait, nous voulons exporter nos problèmes dans les autres pays, avec toutes les mesures de rétorsion que ces pays pourront prendre, au lieu de chercher de mettre en place une politique coopérative. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'Union européenne est une Union européenne non coopérative. Elle est basée sur le dumping social, le dumping fiscal, la concurrence de tous contre tous. Et à cela, au lieu d'avoir plus de solidarité, eh bien, plus de coopération, bon, en sortant de l'euro, nous rajouterons de la concurrence à la concurrence. Et donc ça, nous pensons que politiquement, pour un projet de gauche, ce n'est pas acceptable. Alors maintenant, désobéir à l'Union européenne, rompre avec les traités, cela peut amener, cela amènera, hein, inévitablement un affrontement avec les institutions européennes. Qu'en sera-t-il de cet affrontement ? Personne ne peut le dire. Est-ce que nous resterons isolés ? Est-ce que le pays qui rompra avec le néolibéralisme restera isolé ? Est-ce qu'il y aura un effet contagion ? Est-ce qu'il sera rejoint par d'autres pays rebelles ? Personne ne peut le savoir. Donc les choses sont ouvertes. Il est possible qu'à un moment donné, si le pays reste isolé, les autres pays décident de l'exclure de la zone euro. Si le choix, c'est entre capituler et sortir de l'euro, il faudra évidemment sortir de l'euro. parce que la capitulation devant le néolibéralisme, devant les exigences qui sont les exigences de la Banque Centrale Européenne ou des institutions européennes, sont inacceptables. Bon. Donc on ne peut pas capituler devant ces exigences, parce que capituler dans ce cadre-là, c'est appliquer le programme de ses adversaires. Donc la sortie de l'euro peut être le résultat d'une bataille politique, hein, si on est expulsé de la zone euro, mais ce n'est pas un préalable pour rompre avec le néolibéralisme.
Précisément, désobéir, c'est désobéir à quoi ? Aux règles budgétaires
C'est désobéir à toutes les dispositions qui, dans les traités ou dans les directives européennes, nous empêchent de mener une politique de rupture avec le néolibéralisme. Par exemple, vous avez donné tout à l'heure l'exemple du contrôle des capitaux. Si on ne fait pas un contrôle des capitaux, on commence à être étranglé financièrement. Donc il faudra faire un contrôle des capitaux. Faire un contrôle des capitaux, c'est contraire à la disposition des traités européens qui dit que la liberté de circulation des capitaux est considérée comme une liberté fondamentale. Donc ça veut dire qu'on dit, ben nous, voilà, aujourd'hui, nous n'appliquerons pas ces dispositions des traités. C'est-à-dire que nous engageons un bras de fer avec les institutions européennes, en disant voilà, nous sommes pour la construction européenne, parce que nous pensons qu'il y a un destin commun des peuples d'Europe aujourd'hui, et que nous avons besoin d'Europe pour peser dans le monde, pour mener des négociations à l'échelle internationale, pour appliquer des politiques européennes, qui sont des politiques européennes progressistes. Eh bien, il y a besoin de l'Europe pour lutter contre le dumping social et contre le dumping fiscal. Il faut un espace de solidarité à l'échelle européenne, donc on a besoin d'Europe, mais d'une autre construction européenne. Nous nous adressons à nos partenaires européens pour dire, voilà, ben, nous voulons renégocier les traités, nous commençons à appliquer chez nous les mesures qu'il faudrait appliquer à l'ensemble de l'échelle européenne.
Actuellement, on donne dans les sondages La République En Marche et le Rassemblement National en tête. Est-ce que c'est de bon augure pour voir émerger cette alternative européenne ?
Non, c'est de très mauvais augure, parce que le Rassemblement National prône en fait une politique nationaliste de repli national xénophobe qui est mortifère, hein, bon, qui nous a mené à la catastrophe à d'autres époques historiques. Et quand à La République En Marche, il professe un néolibéralisme assumé qui existe déjà à l'échelle européenne. C'est les deux faces de la même médaille. Et d'ailleurs, ces deux formations ont intérêt à mettre en scène leurs propres affrontements pour essayer d'évacuer le fait qu'il existe une autre alternative qu'une alternative de gauche progressiste.
Pierre Calfa de la Fondation Copernic. Et je vous rappelle, hein, chers auditeurs, chers auditeurs, que l'ensemble de cet entretien est disponible en podcast et en téléchargement sur microrebelle.fr. Ce Microrebelle Hebdo se termine maintenant. On vous dit très très vite, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Never gon' sell, never gon' sell. When they think they got it, stay melodic, hypnotic, chaotic. How they plot to closer to doom. As soon, smell the fumes in the room. Come creeping in again, ignition, haunting, about to go ghost wind. They try to tell me, they try to fail me, they try to sell me some bullshit I ain't hearing. They try to tell me, they try to fail me. They try to sell me some bullshit I ain't.